La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 37e émission de la Semaine de l'Art, la première émission de 2015, puisque vous le savez, la semaine dernière, nous n'avions pas le cœur de faire une émission, surtout c'était une émission anniversaire spéciale qui aura lieu finalement le 5 février. Et pour cette 37e émission, nous recevons Jean-François Hébert. Bonjour Monsieur Hébert.
Bonjour.
Président de l'établissement public du Château de Fontainebleau, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, on dit président du Château de Fontainebleau.
Président du Château de Fontainebleau, voilà. Avec lui, nous allons parler bien sûr de son... de Fontainebleau, c'est évident, mais également peut-être commencer par le début de son parcours, puisque Jean-François Hébert, je l'ai déjà écrit sur la Tribune de l'Art, et a toute vocation pour travailler dans un musée, puisqu'il était narque, c'est un peu une boutade de ma part. Et j'ai été un petit peu d'ailleurs injuste avec lui lorsqu'il est arrivé à Fontainebleau, puisque je lui ai dit encore un énarque à Fontainebleau. Il faut dire que la politique de Fontainebleau, depuis qu'il est arrivé, est plutôt satisfaisante par rapport aux critères de la Tribune de l'Art. Je ne sais pas si ce sont les bons critères, nous verrons cela. Mais peut-être pouvez-vous nous parler de votre parcours. Comment êtes-vous amené finalement à faire toute votre carrière dans la culture? Et également nous parler de votre passage comme chef de cabinet de Christine Albanel.
Alors, comme directeur de cabinet de Christine Albanel, oui, mais avant ça, moi j'ai fait la moitié de mon, enfin, disons un tiers de mon parcours au ministère de la Défense, aussi surprenant que ça puisse paraître, et puis les deux tiers au ministère de la Culture. Au départ, je suis donc conseiller à la Cour des Comptes, aujourd'hui conseiller maître, et le hasard a fait que, c'est les hasards de la vie finalement, et des rencontres avec des personnalités, ont fait que je me suis retrouvé pendant 10 années à travailler avec la communauté militaire, et puis avant et après, avec le ministère de la Culture, dans ces différentes espèces, je dirais, parce qu'à la fois en cabinet, mais aussi en établissement public, dans des établissements patrimoniaux, comme le Château de Fontainebleau aujourd'hui, ou tourné vers la culture scientifique et technique, comme la Cité des Sciences, ou vers le livre, comme la Bibliothèque nationale de France.
Alors peut-être décrivez-vous un peu plus, de manière un peu plus détaillée, tous les établissements culturels par lesquels vous êtes passé, ce qui est intéressant pour savoir quelle est votre expérience dans ce domaine.
Oui, alors j'ai, à sortir de la Cour des Comptes, j'ai été appelé par François Léotard rue de Valois, donc j'ai eu un premier contact comme conseiller budgétaire dans les années 86-88, qui étaient des années de cohabitation. Fonction passionnante parce que transverse avec des collègues qui s'occupaient de la musique, du patrimoine, du livre. C'est toujours un rôle intéressant d'être dans ces fonctions horizontales. Et puis ensuite, j'ai été appelé à l'établissement qui a finalement conçu la bibliothèque aujourd'hui nationale de France.
Pas toujours très bien d'ailleurs, il y a eu quelques petits défauts de conception.
Sûr. Oui, bien sûr, qui ont été résolus en grande partie depuis, mais c'était un temps magnifique de dialogue entre Dominique Jamais et puis Emmanuel Leroy-Ladurie, pas toujours serein, pas toujours facile, mais finalement ça aboutit à un magnifique établissement. Donc voilà, un beau parcours de directeur administratif et financier dans un très bel établissement, et puis ensuite passage à la Défense et retour au ministère de la Culture comme président de la Cité des Sciences et de l'Industrie. J'ai eu la chance de présider cette maison pendant 5 à 6 années.
C'est un établissement public également ?
C'est un établissement public industriel et commercial qui est très bien placé en termes de fréquentation. On l'oublie toujours un peu hein, parce qu'on est habitué au Musée des Beaux-Arts, mais la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est le troisième ou quatrième musée, si on peut le qualifier ainsi, le plus fréquenté en France. Hein. C'est une très belle maison, notamment pour les enfants, avec la Cité des Enfants, mais pas seulement, qui attire beaucoup d'adolescents, beaucoup de classes, et qui apprend la science en s'amusant, finalement, très pratique. Il y a une très belle expérience de visite. Donc vraiment très très bel établissement dans un lieu qui m'a beaucoup touché, parce que le parc de la Villette, avec toutes ces institutions réunies, que ce soit le conservatoire, la Cité de la Musique, la Grande Halle, le Zénith, qu'il ne faut pas oublier, et puis la Cité des Sciences, c'est un lieu culturel très important. Et j'étais heureux de travailler dans ce nord-est de Paris, un peu loin des beaux quartiers, pour promouvoir cette culture scientifique et technique. Et puis, le hasard a fait, là aussi, les rencontres que j'ai été appelé auprès de Christine Albanel comme directeur de cabinet. J'y suis resté 2 ans et ensuite j'ai été nommé au Château de Fontainebleau. Alors, si on veut revenir sur le temps, puisque vous m'y invitiez, de directeur de cabinet de Christine Albanel, elle était présidente de Versailles avant d'être nommée ministre. J'étais donc moi-même président de la Cité des Sciences et on se connaissait bien. Et elle m'a proposé de la rejoindre. J'ai d'abord dit non parce que la vie de cabinet ne m'attirait pas spécialement. Et puis bon, finalement, j'ai dit oui parce que c'était une aventure assez extraordinaire d'être rue de Valois auprès d'un ministre pour laquelle j'avais de l'estime. J'ai toujours de l'estime. Une très belle personnalité que Christine Albanel. Être là dans ce ministère qui est plein de défis à relever, c'était un challenge que j'avais envie d'entreprendre. Donc je me suis lancé dans l'aventure à une époque pas simple.
Alors, vous savez que la Tribune de l'Art est souvent critique envers les politiques et particulièrement envers les ministres de la Culture. Je ne peux pas dire que j'ai toujours été très tendre envers Christine Albanel, mais vous me rappeliez qu'il y avait quand même des points positifs, et ce serait peut-être intéressant de les souligner. On ne va pas revenir sur les points négatifs, puisque depuis, il y a eu des ministres, j'allais dire, où il y a tellement de choses négatives depuis que finalement, on a pris un peu prescription.
On vous reconnaît bien là, cher Didier.
Il y a un peu prescription, mais donc effectivement, moi, une des choses qui m'a marqué quand même, qui est très bien, qui a été fait par Christine Albanel, et je l'avais d'ailleurs écrit sur la Tribune de l'Art, c'est que les vols d'œuvres d'art, qui sont quand même une véritable plaie pour le patrimoine français, étaient jusqu'à quelques années, donc jusqu'à le fait qu'elle soit ce ministre, étaient punis comme on pouvait voler une œuvre d'art dans une église, comme si on volait un vélo.
C'est vrai.
Il n'y avait aucun fait aggravant, et ce qui n'est plus le cas maintenant.
Oui.
Et je sais que j'ai eu à cette même émission le directeur de l'OCBC, M. Stéphane Goffny, qui nous a dit que le fait d'avoir accentuer la répression sur les vols d'œuvres d'art fait que ça a diminué.
Exactement. Et moi, je me souviens très bien de cette grande réunion dans le Salon des Maréchaux avec la ministre de la Justice et la ministre de la Culture pour effectivement prendre des mesures à la suite d'un vol qui avait été particulièrement grave, des mesures un peu, disons, répressives pour limiter le plus possible ces vols. Ça, c'est vraiment très important. Mais il y a des choses, je dirais, qui restent du passage de Christine Albanel. Alors, au-delà de la personnalité que j'évoquais, il faut peut-être dire que le contexte était quand même délicat. Je rappelle que c'est l'époque où le président Sarkozy a introduit pour tous ses ministres des critères d'évaluation. On s'est retrouvé donc avec tout le monde culturel qui a protesté contre l'idée qu'on pouvait mettre la culture en chiffres. Ça a été une chose difficile. Auprès du président, il y a eu des conseillers qui avaient quelquefois tendance à se prendre pour des ministres bis, donc ils ne simplifiaient pas la
vie. Donnez-nous en tête, on ne les donnera pas là pour pas vous.
Oui, on ne les donnera pas, mais je pourrais les donner et ils se reconnaîtront de toute façon. Mais ça a été, en tout cas, comme pour moi, directeur de cabinet qui était en contact avec l'Élysée, avec Matignon presque tous les jours, assez difficile pour conduire des dossiers quand effectivement on conteste au ministre la capacité à exercer ses fonctions. Donc un contexte difficile. Je rappelle aussi que la communication était très forte. On privilégiait les effets d'annonce. Et Christine Albanel n'est pas une femme qui aimait à se produire à la une des magazines. C'est quelqu'un qui voulait faire un travail de terrain, qui était une très bonne connaisseuse du ministère et qui souhaitait lui donner le meilleur, en fait, et exercer la mission dans les meilleures conditions. Alors, qu'est-ce qui reste de ce passage? Beaucoup de choses dans le domaine de la communication qui ont été très contestées. Je rappelle juste pour mémoire la nomination du président de France Télévisions, sujet épique, la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, qui a fait couler beaucoup d'encre et mobilisé la ministre beaucoup. Hadopi, la lutte pour les droits d'auteur,
des sujets très importants. Parce que c'est un sujet sur lequel personnellement, mais ça sort du champ des tribunaux.
Oui.
Je pense que l'efficacité d'Hadopi a été finalement à peu près nulle. Hein. Je peux vous garantir que je connais beaucoup de gens qui téléchargent et qui téléchargent très facilement et sans jamais être pris parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions. C'est pour vous dire non.
Mais
je ne suis pas sûr que ça soit.
Il faudrait avoir un vrai débat avec les chiffres, hein, mais on ne va pas entrer là à ce stade.
C'est vrai, ça sort du champ.
Je vais plutôt vers les sujets qui vous intéressent. Il faut rappeler aussi quand même la très forte augmentation du budget sous Sarkozy.
Alors ça, paradoxalement, les augmentations de budget, c'est vrai.
Et oui.
Sous Sarkozy, il y a eu à un moment donné, alors après, sous Frédéric Mitterrand, il y a eu une augmentation qui n'était pas vraiment une augmentation, mais c'est vrai que jamais le budget n'a baissé.
Exactement. On n'attendait pas ça d'un président de droite. C'est malgré tout ce qui s'est passé. Et donc Christine Albanel était la ministre qui a porté cette augmentation de budget. Je rappelle un chiffre simple. On a pu augmenter les crédits du patrimoine, et Dieu sait que pour la droite au pouvoir, c'est toujours une priorité, de 100 millions d'euros par an. Le président a garanti ce montant qui a été effectif.
Effectivement, je crois me rappeler de ça. Je ne peux Je le reverrai après. Ce qui est sûr, c'est que depuis, ça a beaucoup baissé.
Ah, mais bon, peut-être. Mais autre mesure importante, là aussi complexe, parce que la volonté présidentielle, c'était le cas échéant d'introduire la gratuité dans les musées. Et nous savions, étant à l'écoute des grandes institutions, que ce n'était pas, a priori, une bonne solution. On a réussi à transformer ce souhait présidentiel en une mesure plus adaptée, qui était la gratuité pour les moins de 26 ans. On a d'abord fait une expérimentation dans plusieurs musées, et finalement, on a transformé la mesure en une gratuité pour les moins de 26 ans qui existe encore aujourd'hui. Donc ça, ce sont des acquis, finalement. On n'est pas encore revenu dessus.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait un directeur de cabinet? Quel est son rôle par rapport... C'est plus un rôle politique que par rapport à l'administration, aux fonctionnaires qui sont là, en principe, qui perdurent au-delà du ministre. Qu'est-ce que fait un directeur de cabinet?
Le directeur de cabinet, il soutient l'activité du ministre, et il est une sorte de plaque tournante, finalement, entre la volonté politique qui s'exprime, avec des ambitions, avec une vision de la culture, et puis les services qui doivent mettre en œuvre cette politique. Il faut forcément qu'il y ait un intermédiaire qui traduise, en termes, disons, administratifs, une volonté politique, et qui rende compte à la ministre ou au ministre de l'avancée des dossiers, qui écoute, qui démultiplie la capacité d'écoute pour faire avancer les dossiers. Il y a aussi un rôle très important, je le disais tout à l'heure, de contact avec ses homologues à l'Élysée et à Matignon pour que la ligne soit garantie, ou au moins qu'on puisse en discuter.
Par exemple, par rapport à un directeur des patrimoines actuel, tel qu'il s'occupe du patrimoine et des musées, le chef de cabinet, quelles sont ses relations avec lui?
Alors, directeur de cabinet, parce que le chef de cabinet... Le chef de cabinet, c'est celui qui fait la logistique, disons, autour de lui. Directeur de cabinet, c'est celui qui dirige le cabinet.
C'est ça, c'est le directeur de cabinet.
Le directeur général des patrimoines, il est nommé en conseil des ministres, il a une responsabilité pleine sur le patrimoine. C'est lui qui doit proposer à la ministre ou au ministre les axes de cette politique. Mais la discussion peut se nouer d'abord avec le directeur de cabinet, par exemple. Il y a très souvent des réunions de travail avec les services pour préparer la décision ministérielle. Mais ça n'est en aucun cas, ne déduisez pas de mes propos, le directeur de cabinet qui fait la politique. La politique, si tout fonctionnait normalement, dans le meilleur des mondes, elle serait proposée par les services qui sont compétents, qui sont des gens qui animent le ministère, au politique, et le politique donne ses orientations et il y a un dialogue. Là où les cabinets ne fonctionnent pas bien, je le dis par expérience, c'est lorsqu'ils fonctionnent en petit clan, comme un petit clan en circuit fermé finalement, en considérant que les services ne participent pas à la politique. Ça ne peut pas fonctionner, parce que le jour venu, quand la difficulté vient, il n'y a plus personne derrière soi.
Alors, est-ce qu'on dit souvent que le ministère de la Culture n'a finalement, à cause de tous les grands projets qui ont accumulé les budgets de fonctionnement importants, finalement, que le ministère de la Culture n'a plus de marge de manœuvre? Est-ce que c'est vrai? Moi, je tente à penser que non, parce que tout n'est pas que de l'argent. Il y a aussi la volonté et la communication et la manière dont on dit, dont doivent se passer les choses, qui peut jouer. Mais est-ce que c'est en partie vrai? Et est-ce sur quelle marge peut jouer le ministère de la Culture pour décider de donner plus d'argent à un tel ou à un tel?
Alors, vous avez raison sur le fond. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens d'influence que l'argent. En même temps, l'argent à la culture, comme je l'ai vécu aussi à la défense, c'est quand même le nerf de la guerre, si on peut dire. Et on en a toujours besoin dans tous les secteurs. Et c'est d'ailleurs assez difficile pour un ministre d'être jugé simplement sur le budget qu'il a ou qu'il n'a pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a des marges de manœuvre qui reviennent. On a inauguré il y a deux jours, hier, la Philharmonie de Paris. Elle a consommé des crédits publics extrêmement importants qui n'ont plus à l'être, qui redeviennent disponibles pour d'autres projets. Autre projet achevé qui a été inauguré l'année dernière, le MUCEM. Autre projet qui...
Deux projets d'ailleurs pour lesquels les dérives ont été importantes.
Oui, mais oui, on peut en discuter. Mais les archives nationales pour lesquelles il n'y a pas eu, à ma connaissance, de grandes dérives ont été aussi achevées à Pierrefitte. Donc vous avez toute une série de grands projets qui se sont achevés et qui constituaient ce qu'on appelle dans le langage budgétaire une sorte de boss, c'est-à-dire que le ministère était confronté à cette espèce de besoin de financement considérable lié à ces grands projets. Aujourd'hui, ces grands projets sont terminés et ça rend ces crédits disponibles, soit pour réduire le déficit public si on les retire à la culture, soit pour d'autres projets, le cas échéant.
Est-ce que, finalement, de ce passage, vous en concluez quoi? En quoi ça vous sert, maintenant que vous êtes redevenu directeur d'un établissement, président d'un établissement public?
C'est toujours une expérience de vie extrêmement importante. D'abord, de diriger une équipe, c'est de se confronter aux politiques, c'est finalement mieux comprendre ce que sont ses attentes, ce que sont ses besoins, la manière de faire progresser des dossiers. Au contact du politique, on apprend énormément.
Alors, vous étiez donc directeur de cabinet de Christine Jeannel,
oui.
Et vous avez été ensuite nommé à Fontainebleau, mais je voudrais qu'on revienne également sur un autre établissement public, celui-ci pratiquement mort-né, qui a vécu très peu de temps. C'était la Maison de l'Histoire de France. Dès le début, c'était une naissance dans la douleur. Personnellement, au départ, je voyais plutôt un intérêt à ce que ça soit inscrit dans le cadre du coup d'État des archives, parce qu'il y avait besoin, il y a quand même besoin d'utiliser ces bâtiments qui sinon risquent éventuellement d'être utilisés pour autre chose. Mais en même temps, les gens des archives ont été très opposés à ça, disant qu'il n'y avait pas la place suffisante. Je pense que vous allez me dire qu'il y avait la place suffisante, mais non, comme le projet a échoué finalement, on ne va pas revenir dessus, peu importe. Mais pouvez-vous nous faire part de votre expérience comme président finalement de cet établissement public, en même temps que vous étiez à Fontainebleau, et vous avez finalement choisi Fontainebleau avant que le projet soit abandonné, vous aviez d'ailleurs eu le nez creux à ce moment-là. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Et je pense que vous m'avez dit que vous aviez lu le livre, alors Charles Personnaz et Emmanuel Pénicaud, qui ont été deux chevilles ouvrières de cette Maison de l'Histoire de France, ont écrit un ouvrage que je suis en train de lire moi-même et dont j'espère parler sur la Tribune de l'Art, qui s'appelle L'Histoire de France n'aura pas lieu, je crois.
Oui, c'est ça.
Et qui raconte de l'intérieur, c'est assez intéressant parce que ce sont deux fonctionnaires qui racontent comment s'est passé et comment a échoué ce projet. Comment avez-vous vécu cela? Et puis peut-être, avant qu'on passe en Fontainebleau, je parlerai aussi peut-être de l'exposition qui m'a un petit peu agacé sous le Grand Palais, les plans reliefs. Mais d'accord. Parlons d'abord peut-être de votre expérience.
Ouais, c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet.
On a un petit peu de temps, on aura du temps pour Fontainebleau quand même.
Une aventure extraordinaire, évidemment. D'abord, moi, je reste persuadé que l'idée même de construire une maison, de réaliser, on n'a pas appelé ça musée parce que ça avait une ambition plus grande, mais de créer une institution publique consacrée à l'histoire de France, ça reste une très belle ambition. J'en suis persuadé, et un jour, elle reviendra sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce qu'on a des institutions culturelles pour toutes les grandes disciplines de notre pays. On a couvert le pays de musées, de toutes sortes d'institutions, et on n'avait pas, sauf pour les conflits, par exemple, un lieu pour parler de notre histoire, de l'histoire de France. Alors, je disais que c'était une occasion manquée, parce que finalement, contre ce projet, se sont coalisées toute une série d'oppositions. Je pense d'abord à la méfiance des historiens, qui se demandaient un peu pourquoi le politique allait s'intéresser à l'histoire de France. Aujourd'hui, ils se mordent un peu les doigts de ne pas avoir été plus enthousiastes. Mais
bon, c'est ça, ils se mordent les doigts vraiment?
Ah oui, je suis persuadé. Et en plus, oui, certains le disent aujourd'hui. On a vu aussi l'opposition des grands mandarins, Pierre Nora en tête, qui ont déploré que ce projet fût né sous l'égide de Nicolas Sarkozy. Donc c'est la grande tribune qu'il a faite dans Le Monde pour dire que le projet était mal né. On a eu aussi, évidemment, l'opposition des lieux d'accueil éventuels de la Maison d'Histoire de France. Il faut dire que les militaires se sont d'abord mobilisés pour éviter les Invalides. Rappelez-vous, ils ont tenté de proposer Vincennes. Il y a eu toute une période qui a été très marquée par le refus.
Il aurait fallu construire à Vincennes.
De la communauté militaire.
La tribune de l'art aurait vraiment été très opposée
à
ça.
Oui, bien sûr. Il y avait aussi ces projets de construction à Vincennes. Finalement, le président de la République a évoqué les archives. Et là, on a eu l'opposition des organisations syndicales dont le jeu était troublé au sein du quadrilatère. Donc, je ne reviens pas sur cet épisode parce que je pense que vous avez raison. Ce n'est pas la peine de remuer tout ça. Mais à ces oppositions sont ajoutées aussi, il faut le dire, en termes d'organisation, les musées que j'avais tenté de fédérer pour faire partie d'un ensemble. Hein. L'idée, c'était de créer une Maison d'Histoire de France à partir d'une tête de pont à Paris, mais avec un réseau qui aurait été constitué de toutes les grandes institutions qui portent une partie de l'histoire de l'art dans notre pays. Et ça aurait été quelque chose d'assez exceptionnel. Donc tout ça s'est conjugué, finalement, pour faire que le projet échoue. Le président de la République a changé, un nouveau gouvernement a été mis en place et finalement la raison n'a pas prévalu, enfin de mon point de vue. La décision a été prise par le politique et évidemment moi je respecte la décision des politiques d'arrêter ce projet très rapidement. Il n'a même pas été soumis, comme c'est traditionnellement le cas, à un examen ou à un réexamen. On sait bien qu'après chaque échéance électorale, les grands projets sont soumis à cette période... à une période de réserve, en quelque sorte. Finalement, on décide en général de les conserver. Là, très rapidement, la ministre en charge a décidé que le projet s'arrêterait. Voilà, c'est ainsi.
Alors moi, ce qui m'avait un petit peu agacé, c'est cette exposition donc, des plans-reliefs au Grand Palais, parce que...
Pourquoi ? Parce que
les plans-reliefs est une collection déshérence qui mériterait beaucoup mieux que simplement un moment où on va faire croire aux gens que tout va bien. Alors, on montre ces plans-reliefs, on va dépenser beaucoup d'argent... parce que ça coûtait quand même assez cher cette exposition, et puis finalement après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire que les plans-reliefs sont retournés à leur poussière dans les et finalement ils sont toujours en déshérence.
Non, je dirais pas ça, je pense que c'était une très belle idée de les faire sortir des Invalides. On a eu, alors pour ceux qui ont eu la chance de voir cette exposition qui malheureusement n'a pas duré très longtemps, c'était un spectacle extraordinaire de les voir déployés, mais en plus sous la nef du Grand Palais, la scénographie était magnifique, enfin vraiment ça a été un grand moment, je crois, de les voir tous rassemblés.
Pas tous, mais tous
ceux qui étaient présents sous cette nef, c'était absolument magnifique. Non, quand on interroge les responsables des musées du plan-relief, ils indiquent qu'il y a eu un vrai dynamisme, d'abord parce qu'on a nettoyé, restauré tous ces plans avant de les présenter, ce qui est un très beau travail. Et puis ensuite, ça a mis... sous les feux de l'actualité, ce musée qui le mérite vraiment. J'ai pas les chiffres malheureusement là pour vous répondre, mais je suis persuadé que si on les demandait à Max Polonowski, il vous dirait que après l'exposition au Grand Palais, il y a eu un mouvement vers le musée des plans-reliefs aux Invalides.
Mais les plans sont toujours en réserve.
Mais
l'endroit où aux Invalides, parce qu'il existe un endroit où on pourrait les installer, est toujours à restaurer. Et finalement, ça. Bon, c'est pas la faute de la Maison d'Histoire de France, c'est la faute des politiques, c'est clair, qui n'ont pas, qui simplement ont cette chose bienveilleuse et qui ne veulent rien en faire, mais c'est quand même problématique.
Le propos de la Maison d'Histoire de France à cet égard, c'était de montrer qu'on pouvait, à partir d'objets historiques de cette qualité, faire rêver le grand public. C'était ça l'idée, c'était de montrer des objets qui existent, mais qu'on ne connaît pas, finalement, parce qu'on ne fait pas la démarche d'aller aux Invalides. Les Invalides, c'est un monde assez méconnu, finalement. Et donc, il fallait montrer ces objets et montrer au grand public qu'il y avait un potentiel énorme dans nos musées, dans les musées. Et de ce point de vue-là, c'était un succès.
Bon, écoutez, on verra ce que l'avenir leur réservera. Ouais. J'espère que ce sera un peu mieux que maintenant. Passons à Fontainebleau, donc, qui est le cœur du sujet, puisque c'est votre fonction actuelle. D'abord, Fontainebleau est devenu un établissement public.
En 2009.
Voilà. Quel est l'intérêt, je vais être un peu provocateur, vous connaissez, quel est l'intérêt de faire un établissement public? On est beaucoup dans le milieu des musées, je me considère un peu du milieu du musée, à considérer que les établissements publics pour des musées, finalement, ça les autonomise. Ça permet de mettre des personnes qui ne sont pas conservateurs dans certains, parce que c'est le statut. D'ailleurs, vous reviendrez peut-être là-dessus. Quel est votre rapport par rapport à un conservateur? Comme le Louvre, c'est un conservateur, à Orsay, c'est un conservateur, dans un certain nombre de musées, c'est un conservateur, et dans d'autres, pas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de statut? Quel est l'intérêt finalement de ce statut d'établissement public qui finalement fait des petites forteresses? Alors, c'est pas trop vrai pour. J'ai l'impression que c'est moins vrai pour Fontainebleau, parce que Fontainebleau est moins sous le feu de l'actualité que Versailles et le Louvre, je dirais, les deux grands, ou Beaubourg, parce qu'il n'est pas à Paris déjà, et puis Versailles, bon, Versailles c'est Versailles. Fontainebleau est un château magnifique, extraordinaire, c'est un des plus beaux châteaux qu'on puisse, et j'encourage tous les auditeurs à s'y rendre s'ils ne le font pas souvent. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait finalement, Fontainebleau ait beaucoup de visiteurs, mais d'un côté c'est bien aussi, parce que ça vous permet peut-être de souffler un peu. Enfin bon, toujours dit que Fontainebleau est devenu l'établissement public, il en avait la taille pour le devenir, mais. Finalement, pourquoi? À quoi bon?
La création de l'établissement public, elle a répondu à l'époque, donc en 2009, mais ça a été préparé en 2007 et 2008, évidemment, à l'idée que Fontainebleau avait atteint une masse critique en termes de fréquentation suffisante pour gagner un peu de son autonomie et que des partenariats étaient susceptibles d'être noués. C'est-à-dire qu'on pensait que Fontainebleau pouvait, par lui-même, nouer des partenariats avec les collectivités locales, avec des mécènes éventuellement, enfin en tout cas avec un ensemble d'organismes. Et c'est la décision qui a été prise donc de créer l'établissement public. Moi, avec le recul, je dirais deux choses. Je dirais un, Oui, je suis persuadé que c'était une bonne décision que de créer cet établissement public parce que ça nous a permis de nous développer. Je suis intimement persuadé que si nous n'avions pas bénéficié de ce statut, nous n'aurions pas connu le développement qui est le nôtre aujourd'hui avec une fréquentation en hausse de 43%, avec une notoriété qui a cru. Enfin, je ne vais pas faire l'apologie du travail qui a été fait. Mais je prends deux exemples. Dans le quartier Henri IV, qui était en déshérence, il y avait un quartier qui devait être revitalisé. On a réussi, parce qu'on était établissement public, à passer une convention avec le conseil général, avec la région, et à amener à Fontainebleau des crédits de collectivités locales, ce qui est très rare. C'est-à-dire que c'est très rare qu'un établissement national comme le château de Fontainebleau puisse amener des collectivités à lui apporter des crédits. On a réussi à faire ça. Jamais, je pense, Frédéric Mitterrand n'aurait décidé de créer le Festival d'Histoire de l'Art à Fontainebleau si nous n'avions pas été un opérateur, ce qu'on appelle dans le jargon, un opérateur de l'État, c'est-à-dire un établissement public capable de prendre des décisions de façon autonome sans en référer en permanence au service des musées de France. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, on a gagné une forme d'autonomie, ce qui ne veut pas dire qu'on est indépendant. Moi, je respecte totalement les tutelles. J'ai de toute façon pas suffisamment de moyens pour me passer de leur appui. Donc, en même temps, il faut bien distinguer l'indépendance et l'autonomie. Et le second point que je voulais évoquer, c'est qu'il ne faut surtout pas créer un établissement public si on ne le dote pas des moyens d'exercer ses missions. Pour Fontainebleau, c'est problématique. C'est-à-dire que nous n'avons pas été dotés en 2009 des moyens d'exercer des missions, par exemple la maîtrise d'ouvrage, une agence comptable. Il y a toute une série de missions qui sont liées à l'autonomie de l'établissement qui doivent être pourvues en termes d'effectifs. Si ce n'est pas le cas, il ne faut surtout pas transformer une institution en établissement public. Aujourd'hui, on est en tension permanente parce qu'il y a une insuffisance de moyens. Ça ne nous empêche pas d'avoir de bons résultats, mais c'est difficile et je crois qu'il faut essayer d'en tirer les leçons. Je pense en effet qu'on a des marges de manœuvre plus grandes quand on est établissement public. En même temps, j'essaie de répondre à votre seconde question qui était la question du parcours du président de l'établissement. En fait, il y a deux parcours possibles. Vous l'avez dit vous-même, soit on est un conservateur et il y en a de très réputés et de très bons qui dirigent magnifiquement des établissements, on les connaît. Et puis l'autre parcours, c'est celui des énarques, pour faire simple, disons des administrateurs. Moi, j'ai une vision des choses qui consiste à dire que ce qui compte, c'est de diriger une maison sous la forme d'un tandem. C'est-à-dire que je crois, moi, à des tandems. Je crois que les deux profils sont valables, absolument, et on le voit avec les personnalités qui aujourd'hui dirigent des grandes maisons efficacement, à condition que le numéro 2 soit le complément du numéro 1. Je m'explique, vous le comprenez très bien, si un conservateur dirige le Louvre, il faut qu'il ait un numéro 2 qui soit un administrateur qui fait tourner la maison. Si Fontainebleau est dirigé par un énarque ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, il faut que le numéro 2 soit un conservateur général qui apporte la compétence scientifique et que le président ne se prenne pas pour un conservateur et réciproquement. Je crois que c'est ça. Il faut absolument la complémentarité et il faut une très bonne entente entre les deux, évidemment. Moi, je pense que c'est jouable. En tout cas, à Fontainebleau, ça l'est. J'ai eu la chance d'avoir auprès de moi, dans un premier temps, Xavier Salmon pendant deux ans et demi. Et aujourd'hui, c'est Vincent Droguet. Et je vois que le fait que je n'empiète pas sur la compétence du scientifique fait que les choses se passent de façon harmonieuse et au grand bénéfice de l'établissement. Parce que par ailleurs, il faut bien le reconnaître, et quels que soient les mérites des formations qui sont aujourd'hui dispensées à l'INP, qui est une institution remarquable, et moi j'ai l'occasion de travailler au sein de la conservation du château, on accueille régulièrement, enfin pas aussi régulièrement que je souhaiterais, mais de temps en temps, des jeunes qui sortent de cette maison. Et on voit bien qu'ils sont de mieux en mieux formés. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui? On a besoin d'une compétence scientifique quand on dirige une maison, si on veut tout avoir. Mais il faut aussi être capable de décrocher des crédits, de parler aux politiques, de parler à des journalistes, genre Didier Rickner, de rencontrer des élus, comme je le disais, de nouer des partenariats, donc de rencontrer des entreprises, des chefs d'entreprise. Il y a un ensemble de compétences aujourd'hui qui font qu'elles peuvent être exercé soit par des conservateurs qui ont cette dimension d'ouverture, je vais pas les citer parce que ça va faire des jaloux, mais on voit très bien qu'il y a de hautes personnalités qui ont toutes ces compétences, voilà, et qui font ça magnifiquement. Soit ce sont des administrateurs, des énarques, qui ont aussi des compétences et qui s'appuient pour la partie scientifique sur des scientifiques.
Alors effectivement, si ça fonctionne comme vous l'entendez, c'est-à-dire que la partie scientifique est réservée aux scientifiques et qu'il y a une juste répartition des tâches, ça peut fonctionner. Et j'allais même dire que dans certains cas, il y a des conservateurs qui dirigent des établissements publics, je ne voudrais pas de nom, ou pour lesquels ça ne fonctionne pas bien du tout. Parce qu'ils n'ont pas forcément la compétence nécessaire pour cela. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement envisager, comme aux États-Unis, que les meilleurs conservateurs, ceux qu'on envisage de placer à la tête de grands établissements, est une formation complémentaire, parce que je pense qu'il est plus facile de se former à la gestion, à la relation politique, etc., oui. que de se former à connaître l'histoire de l'art, peut-être.
Pourquoi pas, mais je pense aussi que la diversité n'est pas un mal, en fait. Mais je crois vraiment que l'important, c'est le tandem, c'est la complémentarité.
Alors maintenant, parlons de la politique du château, de votre politique, finalement, oui. Du château de Fontainebleau, et de celle de Vincent Droguet, donc, qui est le directeur scientifique.
Oui, directeur du patrimoine et des collections. C'est assez beau comme titre.
Directeur du patrimoine et des collections, ça va très bien. Les expositions. Vous avez fait beaucoup d'expositions, dont j'ai parlé d'ailleurs, et beaucoup dont la tribu de la Terre, on était
bien parlé d'ailleurs.
Oui, on était plutôt des. C'est pour vous dire, c'est vrai que la politique du château de Fontainebleau, je trouve, est plutôt équilibrée en termes de. Ce sont des expositions scientifiques à chaque fois, que ce soit sous l'époque de Xavier Salmon ou celle de Vincent Droguet d'ailleurs. Et les acquisitions, les restaurations, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un musée-château, donc il faudra peut-être que vous nous disiez un mot de ce qu'est un musée-château. C'est quand même, ça implique des contraintes différentes des musées purs ou des châteaux purs, j'allais dire. Les publications, donc. Sans rentrer dans le détail effectivement scientifique, puisqu'on est plus là dans le domaine de Vincent Droguet, qu'est-ce que vous, avec Vincent Droguet, est-ce que vous décidez quand vous faites des expositions, pourquoi choisir telle ou telle exposition? Qui propose l'exposition? Est-ce que ça vous arrive de proposer des expositions? Est-ce que c'est toujours Vincent Droguet qui les propose? Comment ça se passe?
Oui.
Quelles sont celles qui vont arriver, par exemple, dans l'exposition, les prochaines expositions qui vont nous intéresser? Voilà, parlons des expositions et comment elles s'organisent, justement, et comment vous travaillez.
Juste avant ça, je voudrais vous dire qu'il faut avoir en tête que pour qu'un château gagne une notoriété, qu'il y ait davantage de public, il faut travailler sur son offre, en fait. Et la première des choses qu'on a faites, c'est d'abord d'ouvrir le château. Ça paraît bizarre, mais il arrivait quand même que les visiteurs trouvent porte close devant la salle de bal, ou voilà, les tours opérateurs se détournaient du château parce que les salles n'étaient pas ouvertes.
Mais tout le château est ouvert.
Alors maintenant, le château est ouvert. Son circuit, son circuit est ouvert. On a eu pour ça des conflits avec les organisations syndicales parce qu'on a eu recours à la sous-traitance, mais cette page est maintenant tournée et on peut comprendre l'état des choses. Mais à partir du moment où je n'ai pas d'emploi supplémentaire pour faire ce travail, il fallait bien trouver une autre solution. On a réussi aussi à ouvrir des espaces qui ne l'étaient pas antérieurement. Je pense notamment au musée Napoléon, qu'on ne pouvait visiter que sur visite guidée une fois par jour. Aujourd'hui, il est ouvert en permanence. D'accord. De la même manière, le musée chinois tend à être, alors c'est pas toujours le cas, on peut le trouver fermé à l'heure du déjeuner, mais autrefois on le voyait pratiquement pas, il était très souvent clos. Aujourd'hui, il est normalement ouvert. Et donc, la première des politiques, je crois, quand on veut sécuriser les visiteurs, c'est de leur dire, venez à Fontainebleau, vous trouverez un château ouvert. Voilà, première des choses. Après, il faut aussi, et c'est ce que vous disiez, créer l'événement, c'est-à-dire animer la politique scientifique, parce que les expositions, c'est l'occasion d'un travail scientifique, faire progresser la connaissance, échanger avec d'autres institutions. Et puis communiquer, faire venir du public. Alors on sait que vous évoquiez le château-musée. À la vérité, un peu comme à Versailles, je pense que les visiteurs viennent surtout pour voir la vie de cour, des lieux splendides, la maison des rois de France, plus que pour voir une exposition particulière, en vérité. Mais l'exposition est malgré tout, comme je le disais, l'occasion d'un travail scientifique et un élément d'animation de politique culturelle. Alors comment les choisit-on? On a eu cette chance d'avoir de très belles expositions, comme l'exposition qui a été faite justement par Vincent Droguet sur Henri IV, une autre Henri IV à Fontainebleau, bien entendu. Rosso Fiorentino, très très belle exposition aussi sur ce magnifique artiste italien qui a travaillé à la galerie François Ier. La toute dernière de cette année, c'était la très grande exposition, la grande rétrospective, dont le commissariat était assuré par Xavier Salmon pour François Gérard. L'année prochaine, on prépare avec Christophe Beyeler une exposition sur le face-à-face entre Picette et Napoléon. Picette qui a été d'abord invité en 1804 à Fontainebleau, très bref séjour, mais c'est formidable ce séjour, j'en dis juste un mot parce que je trouve ça extraordinaire de voir que c'est parce que Napoléon a souhaité accueillir le pape à Fontainebleau et pas à Paris qu'on a ressuscité le château. Finalement, il était complètement dévasté par la Révolution. Napoléon l'a choisi pour accueillir le pape, il l'a fait remeubler en 3 semaines, on a décroché des rideaux des Tuileries de Saint-Cloud, on a fait revenir du mobilier précieux, on a recréé des appartements somptueux pour le pape, et ensuite Napoléon s'est installé à Fontainebleau et le château a continué à être la demeure des rois de France. Je disais 1804, donc date très importante, et puis 1812, et là le pape revient et les prisonniers pendant un an et demi à Fontainebleau. Donc on voudrait consacrer une exposition à ce rapport entre le pape et l'empereur. On a obtenu du Vatican et puis des descendants de la famille du pape, des objets magnifiques. Donc on va travailler ce rapport, ce face-à-face entre ces deux personnalités hors du commun. Et l'année suivante, donc ça sera en 2016, une grande exposition consacrée à Louis XV, Louis XV à Fontainebleau, qui promet d'être très intéressante, parce que Louis XV a laissé une grande marque dans ce château, comme la plupart des souverains d'ailleurs.
Comment a été conçu donc ce programme?
Alors, on travaille collégialement, je le disais tout à l'heure, hein, sinon je serais pas très cohérent avec le propos sur le tandem. C'est la conservation qui fait des propositions, et plusieurs propositions, et on en discute avec le service des publics, de façon collégiale, pour trouver la programmation qui est la plus harmonieuse et la plus cohérente avec ce qu'on a fait antérieurement.
Alors, j'ai pas voulu vous interrompre, mais quand je vous ai interrogé sur l'exposition, vous avez parlé de l'ouverture, et c'est peut-être le moment de poser la question sur un projet qui, je ne sais pas d'ailleurs où il en est, ce qui va vraiment être mis en œuvre ou non, et je ne pense pas que Fontainebleau soit concerné pour l'instant. Moi, je suis très opposé à cela pour des raisons que j'ai écrites sur la Tribune de l'Art, et je sais que les conservateurs en général sont assez opposés. C'est l'ouverture 7 jours sur 7 des musées. Alors, je pense qu'il n'y a que Versailles, le Louvre et Orsay
oui,
qui sont concernés.
Pour le moment.
Alors, je ne sais pas si. Est-ce qu'il y a un devoir de réserve par rapport à ça sur lequel vous ne pouvez pas vous exprimer, ou parce que je sais quand même les conservateurs sont assez opposés pour plein de raisons qui sont d'ailleurs à mon avis de bonnes raisons. Qu'est-ce que vous pensez de cette...
Oh, bon, je veux évidemment vous dire ce que j'en pense, mais alors ouvrir 7 jours sur 7, pourquoi pas, si c'est vraiment une question de moyens. Alors, est-ce qu'il se trouve que dans les musées, le jour de fermeture, c'est en général le mardi, mais ça peut être le lundi, est un jour qui est consacré, on le sait, tout simplement à la remise en état du lieu, à des tournages, parce qu'on ne peut pas les faire quand il y a du public, à toute une série d'opérations.
Des
visites de mécènes, des transferts d'œuvres. Enfin, il y a une activité, chez nous, c'est le mardi, qui est très importante. Et pour nous, le mardi est très important. Admettons qu'on puisse... résoudre toutes ces questions. Moi, je dirais que si on me le proposait, je dirais que d'avoir des moyens supplémentaires, je dirais que ma priorité n'est pas là. Moi, je souhaiterais d'abord améliorer l'ouverture telle qu'elle a lieu aujourd'hui. C'est-à-dire que j'aimerais, par exemple, dans la haute saison, quand le public vient, qu'il fait encore très jour, très beau, pouvoir prolonger l'heure d'ouverture un peu plus tard le soir. Au lieu de fermer à 5 heures en basse saison, à 6 heures en temps normal, j'aimerais pouvoir aller un petit peu plus loin. Pourquoi pas certains soirs des nocturnes. Vous voyez, je pense que j'aimerais plutôt, si j'avais le choix, avant d'ouvrir 7 jours sur 7, améliorer l'amplitude horaire des 6 jours qui restent dans la semaine.
Et on vous a dit que ce serait aux séries les prochains, si les autres
non,
passaient ou pas.
Non, on n'est pas encore là. Je pense qu'on est au stade de l'expérimentation pour les 3 que vous avez cités. On va en tirer les leçons. Il va falloir créer des emplois, réorganiser les maisons les unes après les autres. Et je pense qu'on verra s'il y a lieu d'étendre la mesure.
Parlons maintenant des acquisitions. Est-ce que vous avez des acquisitions à nous annoncer, là, des récentes, très récentes?
Oui, on a eu la chance. Alors, on a eu cette année une bonne moisson en termes d'acquisitions, mais je voudrais d'abord dire, sans avoir l'air de me tirer une balle dans le pied, que la problématique d'un château-musée, évidemment, c'est on a toujours des œuvres qu'on a envie d'acquérir, mais nous ne sommes pas dans la situation de Versailles qui recherche du mobilier, parce que le mobilier qui ornait les salons, les pièces a disparu. Et donc on cherche soit celui qui subsiste, soit des équivalents, soit des copies. La chance qu'on a à Fontainebleau, c'est la richesse des collections. On est quelquefois capable de présenter des pièces avec plusieurs états successifs de mobilier. Un mobilier empire, un mobilier ancien régime, enfin bon. Et ça, c'est la richesse de Fontainebleau.
Vous avez beaucoup de réserves, des choses.
On a beaucoup de réserves, beaucoup
qui sont sur place.
Beaucoup de mobilier en réserve qui sont sur place et qui posent des problèmes qu'on va aborder tout à l'heure. Mais on a cette chance d'avoir un mobilier extrêmement riche. Donc, Fontainebleau est plutôt à la recherche d'objets qui vont nourrir son musée Napoléon, parce qu'on a au sein du château un musée Napoléon qui présente des objets ayant appartenu à l'empereur. Là, pour le coup, là, on a quelquefois des péchés d'envie, et notamment dans les grandes ventes qui ont eu lieu cette année. Pour le reste, on a plutôt un travail à faire avec le mobilier national ou avec d'autres maisons pour recomposer des ensembles qui antérieurement étaient à Fontainebleau et qui aujourd'hui sont un peu éparpillés. Ça, c'est un beau travail. Et d'ailleurs, je profite pour donner un coup de chapeau au mobilier national, parce que c'est une belle institution qui nous aide à récupérer du mobilier quand il est dans des endroits où il ne devrait pas être. Donc ça, c'est un point. Moyennant quoi, on est quand même content de pouvoir faire des acquisitions. On a malheureusement un budget qui est limité.
D'où vient le budget ?
Alors le budget est un budget qui est géré par le service des musées de France. On n'a pas tiré complètement les conséquences de l'autonomie à ce niveau-là. Notre budget est encore géré par les musées de France, de même que celui de Malmaison, de Malmaison ou de Compiègne. Oui, tout à fait. On a le même pot commun et on discute avec Marie-Christine Labordette des acquisitions comme tout le monde. Et bon, on espère, avec l'augmentation de nos ressources, notamment nos ressources propres, pouvoir dégager une ligne budgétaire pour ça. Alors cette année, je vous disais, on a eu de belles acquisitions. T'es un petit peu effrayé par toutes ces ventes autour de Napoléon
qui se passait d'ailleurs près de chez vous.
Qui se passait tout à fait en face du château. Et on a pu acquérir un très beau vase, là pour le coup c'était pas chez Maître Osna, mais à Londres, un vase qui avait été offert au prince Guillaume de Prusse par Napoléon, un superbe vase à l'antique avec une peinture de Napoléon à Jaffa, donc tout à fait exceptionnel, qui trouvera place dans le musée Napoléon. Et puis dans les toutes dernières ventes récentes, on a pu acquérir des assiettes, et Dieu sait que qui font partie des services que l'empereur a eu. Donc vous voyez, ça va toujours, il y a toujours un lien avec le musée Napoléon, des assiettes absolument magnifiques qui rejoindront le musée Napoléon.
Vous avez acheté aussi des choses de l'école de Fontainebleau, des tableaux de l'école de Fontainebleau.
Bien sûr, on a acheté des tableaux d'Après Dubois, de l'école de l'atelier de Dubois. Ouais. On a acheté beaucoup d'estampes aussi. On a aussi besoin de mécènes pour nous aider.
Alors abordons maintenant la question des restaurations. Et c'est peut-être d'ailleurs par ce biais que nous pourrons parler du schéma directeur.
Oui.
Donc vous avez un énorme bâtiment. Vraiment très grand, le château de Fontainebleau.
45 000 mètres carrés.
Je ne sais pas par rapport à Versailles, comment ça se situe au point de vue.
Bon, juste pour vous donner trois chiffres, 55 000 mètres carrés à Versailles, 45 000 à Fontainebleau, 35 000 à Compiègne. Voilà. Ça donne l'échelle, en fait. Hein. Finalement, les trois grandes résidences royales ne sont pas si différentes. Voilà, en même temps, voilà.
Et donc, vous avez besoin. Alors, vous faites des restaurations. Moi, j'ai parlé sur la tribune de l'art de la très belle restauration, à mon sens, du théâtre.
Du théâtre, oui.
Qui n'est pas terminé, d'ailleurs.
Non.
Je ne sais pas si vous avez donc le mécénat.
Pas encore.
D'Abu Dhabi.
On attend la seconde tranche du mécénat d'Abu Dhabi pour restaurer la scène et les niveaux supérieurs.
Du théâtre Napoléon, comme je l'appelle.
Oui.
Comme je pense qu'il faut l'appeler.
Oui, oui. Vous pouvez.
J'ai fait par exemple aussi un article sur la restauration d'une pièce avec une.
Salon jaune.
Voilà, avec une technique tout à fait. Presque, enfin, je pense qu'on peut dire révolutionnaire, ouais, par rapport à ce type de tissu mural. Ouais. Et je ne sais pas où ça en est, ça, mais est-ce que ça avance.
On a fait des expérimentations, des essais, et maintenant,
donc,
on va
retisser. Ce que j'aime bien à Fontainebleau, c'est qu'on n'est pas en train de toujours vouloir reconstituer, restituer, refaire des choses qui nous ont disparu, mais on restaure.
Mais
on restaure vraiment.
Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un château qui est. Enfin, le terme d'authenticité peut être discuté scientifiquement, mais admettons-le. C'est un château qui est authentique. La chance qu'on a, c'est qu'il a traversé les siècles et il a été respecté par les rois de France qui l'ont tous aimé, embelli. Ils ont détruit une aile, mais ils ont reconstruit, ils l'ont mis au goût du jour, mais ils n'ont jamais fait une tabula rasa. Donc c'est l'héritage de tous ces siècles, finalement, qui sont confondus dans ce château extraordinaire. Et il y a une authenticité qu'on a très bien retrouvée dans le théâtre. Le théâtre que vous évoquiez, on était confronté au choix de le restaurer complètement, finalement, de retisser, de refaire, ou de garder le maximum de matériaux d'origine en ne refaisant que ce qui avait été vraiment ruiné et qu'on ne pouvait pas conserver. Et finalement, après beaucoup d'hésitations, on a fait ce choix du respect du lieu Et quand on y va, je pense qu'on a ce sentiment extraordinaire du temps qui passe. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, non pas d'être Napoléon III, Eugénie, entrant dans ce théâtre flambant neuf, non, mais dans ce théâtre qu'ils ont vu, qu'ils ont connu, et sur lequel 150 ans sont passés. Et ça, je crois que c'est un sentiment qui est propre à Fontainebleau. On le retrouve dans les petits appartements de l'empereur et de l'impératrice. Et on souhaite vraiment, c'est la ligne directrice que défend la conservation et que je soutiens, garder le maximum de matériaux authentiques pour que, quand on traverse ces salles du château, ces pièces incroyables, on ait ce sentiment que c'est vraiment la demeure des rois de France. Il y a une âme dans ce château, une vraie âme. Si vous refaites tout à neuf, il n'y a plus d'âme, en fait. C'est un peu le risque.
On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Alors, le schéma directeur.
Alors, schéma directeur, ça, c'est un terme un peu technique et techno.
Expliquez ce que c'est qu'un schéma directeur.
Oui, alors, un schéma directeur, tout bêtement, c'est un programme d'investissement pluriannuel, donc sur plusieurs années, qui répond aux priorités qui ont été dégagées à partir d'un diagnostic. Alors, je reprends les choses. Quand j'ai été nommé en 2009, j'ai tout de suite saisi qu'il fallait qu'on fasse des propositions au ministère restauration du château, à la fois pour le transmettre le mieux possible aux générations qui viennent et aussi pour l'ouvrir mieux aux générations actuelle. C'était vraiment les deux objectifs. Pour ça, j'avais un modèle qui était Versailles. En 2003, Versailles a eu un schéma directeur qui existe encore aujourd'hui. Ça veut dire un programme d'investissement qui ont été dirigés en priorité vers Versailles. Et les différents patrons de Versailles se sont toujours battus pour que la parole donnée à un moment donné soit respectée et que les échéances soient tenues. Et donc, j'ai lancé des travaux, on a travaillé pendant 4 ans, on a véritablement radiographié le château, on a fait des sondages, on a mesuré l'épaisseur des murs, on a testé les menuiseries, on a regardé les toitures, 2,5 hectares de toiture. On a dépensé, tenez-vous bien, 2 millions pour faire toutes ces études avec la CETEC, avec des experts de tous ordres. On est arrivé au bout de 4 ans à un constat qu'il y avait des choses qui vont bien dans ce château, puis il y a des tas de choses qui vont pas bien, évidemment, parce qu'il a fait l'objet de campagnes de restauration extraordinaires dans les années 60, sous l'influence de Malraux d'ailleurs, 60-70, il y a eu les grandes restaurations menées par les Samoyaux qui sont emblématiques, mais depuis il n'y avait pas eu grand-chose. Et donc il faut faire quelque chose pour que ce château continue sa route à travers les siècles, ça paraît très évident. Et l'outil, c'est le schéma directeur. La chance que j'ai eue, c'est que le ministère a accompagné ce schéma directeur, on l'a associé dès le départ, on a travaillé avec les services du Musée de France, avec la Direction Générale des Patrimoines côté monuments historiques. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont tellement accompagnés qu'ils ont même anticipé sur le schéma directeur en nous aidant à restaurer la toiture du théâtre, par exemple. Ça paraissait un peu absurde de restaurer le théâtre sans restaurer la toiture qui est au-dessus et qui n'était pas inclus dans le mécénat. Donc on a senti que le ministère était dans l'attente, au fond, de propositions de l'établissement public. Encore une fois, nous n'aurions pas eu cette autonomie, nous n'aurions pas été force de proposition. Et là, finalement, ce schéma directeur, c'est la rencontre entre des propositions de l'établissement public et la conscience qu'ont les services du ministère qu'il faut aider Fontainebleau, que le temps de Fontainebleau est venu. J'hésite pas à employer ce terme. Et donc, la résultante de tout ça, c'est le schéma directeur. Le schéma directeur, c'est un schéma que la ministre va présenter, je l'espère, à la fin du mois, à Fontainebleau. Elle va le lancer officiellement, mais on peut dire dès aujourd'hui qu'il va s'étaler sur 12 ans, donc de 2015, à 2026. 12 ans, une dizaine de millions par an. Quand on compare aux crédits qui étaient ceux de avant l'établissement public, de 500 000 à 1 million, on voit le saut. Alors il se trouve qu'on a déjà eu beaucoup de crédits, comme je le disais, par anticipation. Mais on va pouvoir, avec ces crédits, faire des choses toutes simples. En termes de sécurité d'abord, créer des bouches d'incendie autour du château qui n'existent pas aujourd'hui, créer un éclairage de sécurité pour que les gens puissent évacuer en cas d'incendie, faire que les escaliers soient coupe-feu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je dis juste que j'ouvre le château chaque jour sous ma seule responsabilité, la commission de sécurité de Seine-et-Marne y étant opposée. Donc on a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Pour le bâtiment, pour éviter l'Unéville ou le Parlement de Bretagne.
En revanche, vous n'allez pas, comme le fait actuellement Versailles, une chose à mon avis qui est contestable, c'est d'installer, alors on appelle ça une ventilation, enfin ils appellent ça une ventilation, c'est une espèce de, sous prétexte que là où tape le soleil, il fait très chaud. Bah, il a fait très chaud à Versailles depuis trop de siècles.
Mais nous ne sommes pas dans la situation de Versailles et nous ne voulons pas être dans la situation de Versailles, en ce sens que nous considérons, alors à ce stade aujourd'hui, peut-être que mes successeurs, quand ils auront une fréquentation énorme, en reparleront, mais aujourd'hui on avait 350 000 visiteurs avant l'établissement public. Cette année, on passe les 500 000, on a 517 000 visiteurs. C'est bien. La cible que nous avons fixée pour l'échéance du schéma directeur, elle est raisonnable puisque c'est 700 000 visiteurs. C'est la fréquentation de Chambord aujourd'hui, un petit peu moins. Donc ça sera 700 000 à 1 million de visiteurs. Mais nous ne voulons pas que le bâtiment, le monument soit...
Adapté à la foule.
Voilà, exactement.
Le problème, c'est que je crains, alors c'est moi qui parle, ce n'est pas vous.
Mais moi, je suis encore loin de la cible. Donc il faudrait me réinterroger dans 5 ans.
À Versailles, on adapte le monument à la foule.
Mais parce que la foule est là, c'est tout le problème. Nous ne voulons pas laisser arriver la foule. Voilà.
Il faudra qu'à un moment donné, il y a des solutions qui existent, des réservations à l'avance.
Alors ça, on ira dans ce sens.
Ça pourrait se faire, parce qu'à Versailles, c'est tout simplement impossible de visiter à certains moments. Ce qui n'est encore pas le cas, je pense, à Fontainebleau, et tant mieux.
Nous, notre objectif, je vous le redis, c'est que la visite reste une visite agréable. Nous savons que des groupes scolaires, par exemple, qui vont dans d'autres lieux où il y a beaucoup de tensions sur les effectifs, reviennent dans de moins bonnes conditions que quand ils ont fait un peu plus de temps de transport. Mais qui sont allés à Fontainebleau et qu'ils ont visité dans de bonnes conditions.
Une dernière chose par rapport au quartier Henri IV, est-ce que vous avez un projet parce qu'il est vide pour le moment ?
Non, alors il va être rempli, comme je vous disais tout à l'heure, par un pôle d'excellence du tourisme qui est porté par le conseil général et le conseil régional, qui va ouvrir ses portes au début de cette année, mais il ne remplit pas tout le quartier Henri IV. Oui. Dans le cadre de ce schéma directeur que j'évoquais, on a d'abord une réflexion sur les besoins du château pour son développement, et on s'est réservé l'aile sud du quartier Henri IV, dans lequel, à la fin du schéma directeur, on installera les activités pédagogiques du château. D'accord. Et peut-être des espaces d'exposition temporaires. D'accord. Mais ce quartier Henri IV va se remplir va être revitalisé avec ce pôle d'excellence du tourisme, avec un auditorium et un restaurant, avec les activités pédagogiques du château.
Est-ce qu'on envisage peut-être de cette couleur jaune qui, moi, me gêne beaucoup, qui, à mon sens, qui est sur du grès, et tous les spécialistes que j'ai consultés disent que le peindre en jaune sur du grès, c'est pas très cohérent par rapport à ce qu'on voit dans la ville, ne serait-ce que pas. Est-ce que ça vous faudra le reprendre un jour? Est-ce que ça se...
Bon, écoutez, ça, on va
attendre. C'est vrai que c'est pas l'urgence.
On va surtout voir comment ça vieillit, en fait, comment ça traverse le temps. Je pense qu'il faut attendre 4-5 ans encore pour voir quel est l'effet que ça donne.
Alors parlons maintenant, pour conclure, du Festival de l'Histoire de l'Art, qui est une des grandes réussites, je dirais, de Frédéric Mitterrand, là, pour le coup, qui a eu... alors certains, il faut savoir que ça ne fait pas l'unanimité chez les historiens de l'art, certains pensent que c'est beaucoup d'argent dépensé pour finalement quelque chose qui ne donne pas trace, il n'y a plus de trace après. Moi, je fais partie de ceux qui sont plutôt positifs parce que ça fait parler d'histoire de l'art pendant un certain temps, mais c'est vrai que c'est un petit peu entre happy few, c'est les historiens d'art qui se retrouvent entre eux. En même temps, c'est une manifestation, moi, que j'aime beaucoup. On a toujours eu de la chance, j'espère que fera toujours du bois. Il a toujours fait beau. Oui. Ça permet de découvrir le château avec beaucoup de monde, mais des gens qui sont vraiment passionnés. Le château est ouvert. Il y a des conférences un peu partout. Enfin, je sais que c'est quelque chose auquel vous tenez. J'étais un peu sceptique. Je ne vous l'avais pas caché, je crois, à Fontainebleau. Et puis finalement, en allant la première fois, je me suis dit que c'est une très bonne idée parce que Fontainebleau est un petit peu difficile d'accès parce que la gare n'arrive pas directement dans la... Mais n'empêche qu'une fois qu'on est sur place, on a envie de rester.
Oui. Alors je vous reprends peut-être ou les historiens que vous évoquiez sur le entre-soi, parce que on a, pour la quatrième édition, réuni 33 000 personnes. Alors il n'y a pas 33 000 historiens.
Comment vous les comptez?
On les compte comme les comptes, les
comment vous avez qu'une personne ne va pas dans... Si vous comptez
on compte les visites. On compte les visites. Alors c'est pas des personnes. Je retire ce que j'ai dit. Ce sont des visites.
Des visites
chaque fois que quelqu'un vient à une conférence, on le note.
Voilà, 33 000.
On a ce baromètre.
On va souvent à plusieurs conférences. Donc,
oui, bien sûr, mais on est passé de 15 000 la première année le baromètre était le même, à 33 000.
C'est comme sur Internet, c'est compliqué.
C'est exactement la même chose à Blois. Ils ont exactement le même type de comptage. Et on s'aperçoit qu'on est très bien placé par rapport à Blois, et ça en 4-5 ans. Ouais. Donc, c'est aussi, je trouve, et ça me touche beaucoup, le terme n'est pas adapté, mais je trouve que c'est un beau résultat que l'européanisation du Festival d'Histoire de l'Art. Parce qu'au fond, en ayant un pays invité chaque année, on fidélise des historiens d'art qui viennent de différents pays. On a eu l'Italie, on a eu l'Allemagne, on a eu l'Angleterre, on a eu la Suisse, on aura l'année prochaine les Pays-Bas, cette année en 2015 les Pays-Bas, et on voit qu'il y a des gens qui reviennent. Quand on mesure les gens qui viennent au festival, on s'aperçoit qu'on a maintenant près de 10% d'étrangers européens. On n'a pas encore gagné les États-Unis mais, ou les Russes, mais on voit qu'il y a un public qui dépasse les frontières. Et c'est vrai que c'est une manifestation unique en Europe. Il y a eu une tentative à Londres pour un petit festival. Je leur souhaite beaucoup de succès. Il y a quelque chose qui s'est développé aussi à Milan. On commence à voir apparaître des mini-festivals d'histoire de l'art dans d'autres pays, mais c'est propre à la France. Et c'est vrai que c'est à mettre au crédit de Frédéric Mitterrand, qui a eu cette intuition qu'il fallait aider les historiens d'art à sortir de leur, justement, de leur entre-soi pour aller vers le plus possible vers le grand public. Alors certains, ils sont parfaitement aptes, d'autres ont plus de difficultés, on le sait, hein. Mais c'est, je pense que c'est une bonne école finalement que ce festival d'histoire de l'art.
Il aura lieu quelle date ?
Cette année, il a lieu le 29, 30 et 31 mai. Toujours évidemment à Fontainebleau, pas seulement au château, comme vous le disiez, mais dans toute la ville. Hein, on sait que toute la ville se met aux couleurs du château, comme Blois le fait pour l'histoire.
Et la nouvelle ministre, elle est sensible à cela ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de lui en parler ?
Je lui en ai parlé, bien entendu, quand elle m'a renouvelé, puisque c'est elle qui a fait la proposition au président de la République de me renouveler pour 3 ans, en septembre dernier. Et donc j'ai eu l'occasion de lui parler du Festival d'Histoire de l'Art. J'espère bien qu'elle y viendra.
Et vous-même, est-ce que vous proposez poser des choses nouvelles. Comment ça se passe, vous, votre rôle, vous, en tant que... vous êtes puissance recevante.
Oui, exactement. Nous, on est plutôt...
Recevante, je crois que ça se dit, d'ailleurs. Qui reçoit.
Oui, qui reçoit, exactement.
Et quel est votre rôle?
Nous, on est plutôt les organisateurs. Hein. J'essaie de faire que tout se passe bien, finalement, et d'organiser les choses. On travaille beaucoup, finalement, nous, sur ce qui n'est pas la programmation scientifique, qui est du ressort de l'INHA, avec un comité scientifique qui est présidé par Pierre Rosenberg. Donc ça...
Pour
la première fois cette année. Avant, c'était Alain Schnapp qui l'a magnifiquement porté pour 4 éditions. Là, c'est Pierre Rosenberg. Ça, c'est la partie scientifique, c'est toute la partie conférence. Mais à côté de ça, un ensemble de conférences ne ferait pas un festival. Pour que ce soit un festival, il faut qu'il y ait d'autres manifestations. Il faut qu'il y ait des lectures, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait de la danse, le cas échéant. On va essayer d'avoir de la danse cette année. Il faut qu'il y ait des activités pour les enfants, il faut qu'il y ait des activités pour les familles. Sinon, on risque d'être encore une fois dans l'entre-soi. On veut faire venir des familles parisiennes, seine-et-marnaises, de l'Essonne, il faut qu'ils trouvent quelque chose au festival qui est adapté à leurs besoins. Et donc nous avons en charge la programmation en direction des familles et des scolaires. On a fait l'année dernière un très beau cabinet de curiosité sur lequel des classes ont travaillé pendant toute l'année et qui a exposé le fruit de ses travaux au sein même du château au moment du festival. Ça a été un très très grand moment. Je rappelle aussi qu'on a beaucoup d'enseignants qui viennent dans le cadre d'une université de printemps. Et donc on a ce mélange à la fois des historiens d'art, des meilleurs spécialistes qui sont heureux de se retrouver en effet, mais qui rencontrent le grand public avec les enseignants.
Alors nous arrivons à la terme de notre émission, mais via Twitter, quelqu'un nous pose la question. Monsieur Hébert, pourrait-il nous en dire plus sur l'exposition « Le dauphin, l'artiste et le philosophe » programmée à partir du 17 octobre 2015 ?
Oui, alors c'est une exposition dossier qu'on va effectivement programmer à la fin de cette année autour d'un tableau de Lagrenet, le Jeune, qui représente la mort du dauphin. Et donc, les personnages en question, c'est le dauphin fils de Louis XV. Hein, donc c'est une sorte de préparation à la grande exposition Louis XV que nous voulons faire au début de l'année prochaine, mais à partir d'une œuvre. Moi, je trouve très important de travailler sur une œuvre, et on est en cela parfaitement d'accord avec la conservation. Au printemps, on fait une grande exposition qui suppose des emprunts dans des grandes institutions. À l'automne, on met en valeur un objet d'une collection, des collections du château avec un travail scientifique. Et là, on va faire une belle explication critique de ce tableau de Lagrenet, la mort du dauphin. Le philosophe, c'est Diderot.
Merci. Est-ce que vous avez un mot à rajouter de choses dont on n'aurait pas parlé, que vous auriez voulu aborder lors de cette émission ?
Non, je vous remercie de m'avoir donné la parole.
Nous avons réussi à tenir dans l'heure impartie.
Merci, Didier.
Écoutez, merci beaucoup, Jean-François Weber, pour être venu parler assez librement à ce micro. Et donc, rendez-vous pour tous les auditeurs la semaine prochaine pour une prochaine émission de la Semaine de l'Art. Merci. Au revoir.